RVE, il est 9h.
Bonjour à toutes et à tous, effectivement c'est l'heure de retrouver votre grand rendez-vous sportif favori, hein, Tribune Sport entre 9h et 10h, donc on va ce matin parler d'un sport dont on ne parle pas très souvent, mais c'est la vocation de notre émission, hein. On va parler de bowling avec des invités déjà présents dans ce studio. On reviendra aussi sur ce qu'on a vécu cette semaine du côté de la Maison des Sports de Paris, à savoir donc de la remise des prix nationaux du fair play, hein, les Iris du sport 2007, on a tout plein d'interviews à vous proposer. Et puis ensuite, ce sera le grand retour de Tribune Foot avec la section de Bruce Limour. On aura encore des interviews à vous proposer donc dans Tribune Foot sur la remise donc des Iris du sport 2007 qui s'est déroulée donc cette semaine, on l'a dit, du côté de la Maison du Sport à Paris. Alors messieurs du bowling, bonjour, merci de nous avoir donc venu ce matin, hein, d'avoir été dispo. La vocation de notre émission, c'est quand même aussi de présenter des sports dont on parle pas très souvent. On l'a fait la semaine dernière avec le catch, hein. On a souvent aussi dans le passé reçu des présidents de comités départementaux, hein, notamment sur le tir, sur le ski nautique et plus récemment avec Michel Martin sur le vélo. Alors le bowling, comment on en arrive à devenir un passionné de bowling, hein. J'ai avec moi donc monsieur Léniaud, le secrétaire général. Comment on en arrive à devenir un passionné de ce sport?
Bien, je crois qu'on commence comme un peu tout le monde par la partie ludique. Mm-hmm. On commence par jouer un petit peu entre copains.
Ouais, en semaine, le samedi soir.
Voilà, et ouais. Puis petit à petit, bien, on se prend au jeu. Mm-hmm. Et puis on intègre un club, et puis on fait de la compétition. Voilà.
D'accord, ok. Donc on va très largement parler de ce sport, hein, qui est quand même peu médiatisé, il faut le dire. Sauf chez nous.
Oui, voilà. C'est un petit peu le grand souci qu'on a. C'est que, comme tous les sports peu médiatisés, donc on a du mal à recruter, principalement des jeunes. Mm-hmm. Et c'est un sport qui peut-être, dans sa forme actuelle, passe pas très bien à la télévision, parce que bon, ça, c'est pas aussi tactique ou ce que pourrait être la pétanque.
On n'arrive pas à avoir les points qu'on marque, quoi. Si on n'a pas des renseignements du point qu'on marque, c'est difficile.
Fait, donc,
c'est un peu comme l'escrime à la télé qu'on a essayé d'améliorer.
Tout à fait, ou le tir à l'arc. Bon, c'est assez peu télévisuel.
Très bien. Avec vous, il y a M. Rost, c'est ça?
Bonjour.
Le président. Vous aussi, comment arrive la passion du bowling? Comme ça, le samedi soir, le vendredi soir, on va en faire
Voilà, entre amis, au lieu d'aller au cinéma, on fait un petit bowling, et puis on se prend en jeu, et puis on y va un petit peu plus souvent, et puis on finit par rentrer dans un club. Mm-hmm. Et puis la compétition, et puis...
Ouais, parce que c'est comme le badminton, c'est comme d'autres sports, il y a le côté loisir, et il y a le côté compétition, ou comme la pétanque, et là, ça devient complètement différent. Hein.
Ah, oui, tout à fait.
Hein. Très bien. Eh bien, écoutez, ça va être donc le menu donc essentiel de cette émission Tribune Sport. En attendant, on fait la pub, la musique, et ensuite, on va rentrer donc dans le vif du sujet. Alors, effectivement, on va parler, je l'ai dit, hein, de bowling. Hein. Ça va être le menu essentiel de cette émission de ce matin. Auparavant, je voudrais quand même vous rappeler le classement de ce qu'on avait aussi vécu la semaine dernière en direct sur notre antenne, hein, savoir l'épreuve des quatre châteaux, hein, course organisée du côté de Chevreuse. 2400 participants. On a encore battu des records d'engagement. On va vous rappeler donc la victoire de Sylvain Mouquet, hein, on l'avait eu en direct donc sur l'antenne, en 1h 2 minutes et 41 secondes devant Pascal Ruiz, 1h 4 minutes et 21 secondes, troisième Daniel Petit du Val d'Orge, 1h 5 minutes et 50 secondes, et c'est Julie Schubert, hein, de Mainvilliers, tiens, une fille de l'Eure-et-Loire, donc, qui s'impose en 1h 17 minutes et 13 secondes devant Flore Satarade, 1h 18 minutes 45 secondes, troisième Émilie donc Barget, 1h 20 secondes. Alors, messieurs, le bowling, est-ce que c'est un sport qu'on peut faire facilement dans notre région, dans notre département ?
Ah oui, dans le département des Yvelines, effectivement, on peut jouer assez facilement au bowling. Maintenant, il y a pas mal d'établissements qui pratiquent soit le sport de compétition, soit le bowling ludique, voire les deux. Mm-hmm. Et ce qui d'ailleurs très bien, puisque là, on sait que la population sportive amène également des joueurs d'open qui regardent et puis qui pratiquent. Alors dans les bowling, dans les grands bowling de la région parisienne, bon, des Yvelines, il y a celui de Conflans-Sainte-Honorine qui est aujourd'hui 40 pistes, c'est un énorme établissement avec un karting au-dessus. Alors là, pour l'instant, c'est un bowling qui ne pratique que la compétition, enfin que le loisir. Mm-hmm. Après, vous avez des petits bowling. Alors après, il y a Mantes, 8 pistes. C'est un bowling très ancien, mais très sympathique. Il y a un autre bowling qui va se construire dans les mois à venir à Orgeval, 30 pistes. Mm-hmm. Donc c'est pareil, qui sera un bowling qui va faire de la compétition. Il y a un bowling à Cognières.
Oui.
Voilà, il y a un 10 pistes. Il y a le bowling de Montigny-le-Bretonneux, 18 pistes, qui est au centre commercial Skywest, qui pour l'instant fait du ludique et un petit peu de ligue la semaine. Et le bowling aujourd'hui, qui est le bowling phare de la des Yvelines, c'est le bowling de Rambouillet, qui a 12 pistes, qui va s'agrandir avec 6 pistes, et qui est un bowling qui pratique le sport et la compétition, enfin le ludique, avec beaucoup de professionnalisme dans les deux sens. Quoi.
Oui, avec un club donc engagé en compétition, présidé par quelqu'un qu'on connaît bien, qui est souvent venu à ce micro, qui est Jean-Pierre Derrider. Hein.
Ouais, tout à fait, voilà. Donc c'est le club le plus important des Yvelines au niveau bowling, qui a un peu plus de 50 licenciés. Quoi.
Et justement, c'est facile de trouver cette harmonie entre ceux qui font de la compétition puis ceux qui ne font que du loisir sur le bowling, parce que c'est pas toujours la même clientèle, entre guillemets.
Tout à fait. Aujourd'hui, la population ludique, c'est surtout des jeunes, alors que la population de licenciés, c'est des gens qui commencent à dépasser la quarantaine. Voilà.
Des moins jeunes. Donc combien de clubs recensés au niveau de la compétition ?
Dans les Yvelines, 14 clubs pour 14 à peu près 300 licenciés.
D'accord.
Il faut savoir qu'au niveau national, on a 15 000 licenciés. En Ile-de-France, un peu moins de 2 000 licenciés. C'est un sport quand même relativement restreint au nombre de licenciés.
Donc vous l'avez dit, tranche d'âge, surtout les gens de la quarantaine, quoi.
Voilà, voilà. Pour la compétition, c'est surtout des gens de la quarantaine. Voilà.
Il y a beaucoup de filles qui font de la compétition.
À peu près un quart des licenciés sont des licenciés féminins. Donc il y a qui font toutes de la compétition.
Les compétitions, elles sont comment, mixtes, par équipe?
Il existe tout, à peu près tout. La compétition de base, c'est l'équipe de 5, c'est ce qui c'est la constitution d'équipe de base. Mais il y a des compétitions en individuel, en doublette, en triplette, en cadrette.
C'est un peu comme en pétanque, quoi.
Voilà. D'accord, et c'est mixte, ou c'est féminin, ou c'est masculin.
Mais alors, on peut s'engager dans deux compétitions au même moment. C'est-à-dire, on peut participer à une compétition par équipe et puis peu de temps après s'engager dans une compétition individuelle. D'être sollicité en même temps week-end. Quoi.
Voilà, le même week-end, on peut, si les conditions le permettent, faire deux compétitions le même week-end. Oui.
Donc c'est le. On dit quoi? Bouleur.
Bouleur.
C'est
bouleur,
ça, bouleur ouais. Qui s'engage lui-même ou alors c'est en harmonie,
club.
En
alors,
concertation
quand c'est une compétition
avec son club.
Fédérale type championnat, coupe, c'est plutôt le club qui engage, et dans les tournois privés, ce qu'on appelle privé, c'est plutôt les individus qui s'engagent eux-mêmes. Quoi.
Il y a des grandes compétitions officielles
Alors, les compétitions qui sont fédérales, bon, la plus grande compétition, c'est le championnat de France des clubs, en équipe de 5 et en triplette chez les féminines. Là, c'est une compétition qui est assez importante, où il y a plus de 500 équipes engagées pour toute la France, qui se passe sur 3 journées. Soit au niveau national, et là on a des belles équipes dans les Yvelines, puisqu'on a l'équipe en National 1, c'est la plus haute division, soit en régional.
D'accord. Donc ça, ce sont des championnats régulièrement.
Voilà,
des...
classiques comme toutes les disciplines sportives. Et puis après, vous avez des grosses compétitions que sont par exemple en France le Masters. C'est une compétition en individuel qui est une grosse compétition nationale. Et vous avez sur le territoire national des compétitions qui sont organisées par le Tour européen. Il y en a une bientôt au mois d'avril à Creil, avec une dotation comme vous dites, de 90 000 euros au total et 19 000 euros pour le premier.
Donc on peut gagner un peu d'argent quand même au bowling.
Voilà, voilà.
Quelques
joueurs peuvent gagner de l'argent. Il n'y a pas de professionnels en Europe, vraiment professionnels. Quelques joueurs gagnent quand même pas bien leur vie avec le bowling. Pour trouver des professionnels, il faut aller aux États-Unis.
Et des épreuves comme Rambouillet, qu'est-ce qu'on gagne quand on participe à des épreuves comme sur Rambouillet? Rien, des coupes? Ou alors il y a quelques partenaires, quelques sponsors qui parfois disent...
Il y a très peu de partenaires et sponsors. Par contre, il y a des indemnités, c'est-à-dire que quand vous participez à une compétition, vous payez un engagement, et une partie de cet engagement vous revient sous forme d'indemnité, mais c'est très faible.
Alors pour être licencié dans un club, que fait-on? On peut s'inscrire. Vous avez un site internet, on peut s'inscrire à travers votre site internet, avoir tous les clubs qui pratiquent la compétition.
Alors là, il y a très peu de sites internet. Alors il y a un site internet de la fédération, fbsq.org. Et là, par ce biais-là, on peut avoir la liste des clubs. Et, mais au niveau départemental, on n'a pas encore de site internet, et c'est vrai que c'est un outil qui nous manque, parce que bon, la communication moderne voudrait qu'on ait ce genre de truc.
Donc les gens qui veulent s'inscrire, comment font-ils ? Ce matin, ils seraient passionnés par le bowling après cette émission, qu'est-ce qu'ils font cette semaine ?
Pour le plus simple, c'est de contacter les établissements, et dans chaque établissement, il y a un ou deux clubs référents, et là, le patron de l'établissement met en rapport avec les clubs. Les cotisations, la licence fédérale tourne autour de 35 euros.
Ouais, donc
et la cotisation des clubs, c'est à peu près, alors en fonction de ce que veut faire le club, au niveau formation, au niveau éducation, au niveau entraînement, ça va de 30 euros à 70 euros. Quoi.
Alors, ça vous oblige d'être en totale harmonie avec les responsables d'établissement, de travailler en totale harmonie. Il peut y avoir des responsables d'établissement qui disent, moi, je ne fais pas de compétition chez moi.
Il y en a quelques-uns, oui. Parce que le souci, c'est que l'exigence technique d'un joueur de bowling est importante. Un joueur de bowling veut avoir des pistes qui sont entretenues de telle façon, faut pas de bruit, il y a une énorme concentration. Donc, quelquefois, c'est un peu pénalisant pour le patron de l'établissement, qui est obligé d'avoir du personnel un peu plus important au niveau du nombre que quand on fait de la compétition ludique où le joueur, le jeune qui va s'amuser, il est pas trop inquiété par les conditions du village, si l'équipe tombe ou ne tombe pas. Donc c'est un petit peu plus pointu pour un établissement pour faire la compétition. Mais la population vivent très très bien.
Alors quand on fait de la compétition, on ferme carrément le bowling et on consacre toutes les pistes qu'à la compétition. Ce soir-là, il peut pas y avoir les deux en même temps, du loisir.
Ça peut arriver. Donc sur un grand 40 pistes, on sait que la compétition on va mettre 24 pistes pour la compétition et les 16 autres vont rester pour ce qu'on appelle l'open, les gens qui viennent s'amuser. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a une tenue stricte en compétition à respecter ?
Oui.
Il y a des chaussures à mettre,
un peu comme le golf, c'est très exigeant au niveau de l'étiquette. Ouais. Il faut que les joueurs dans une équipe aient tous le même maillot. En règle générale, on est très regardant sur les pantalons. C'est pantalon de ville.
Pas de jean.
Le jean, alors aujourd'hui, on a fait des progrès. Il y a que le jean qui est interdit. Alors avant, on interdisait tout, sauf le pantalon de ville. Maintenant, il y a que le jean qui est interdit.
D'accord, pas de short, pas rien.
Non. Pour l'instant, on n'en est pas. Le short, c'est pas trop conseillé, sauf l'été. À la rigueur, il y a des tolérances.
D'accord. Et le maillot, c'est un maillot de club.
C'est un peu comme le golf, c'est des t-shirts. Enfin, c'est les polos. Et quelquefois le t-shirt, mais c'est surtout les polos.
Il y a une grosse dépense physique dans le bowling, hein. Contrairement à ce qu'on pense. Il n'y a pas que cette image du bowling loisir.
Moi, je compare toujours la comparaison avec le lanceur de poids. On ne dira jamais qu'un lanceur de poids, c'est pas un sportif, c'est pas un athlète. Et pourtant, il va lancer, je ne sais plus, à peu près 7 fois son poids dans le week-end. Un joueur de bowling va lancer 200 boules dans son week-end. Ça représente des tonnes de boules d'envoyer. Alors, le geste est beaucoup moins puissant. Qu'on lançait du poids, mais ça demande un effort physique très important.
Monsieur Rousse, vous avez quelque chose donc à rajouter à ce que vient de dire Monsieur Legnaud ?
Non, il a bien expliqué nos principes de club et puis de jeu.
Vous, le président du comité départemental, comment vous quelle est votre action devant les responsables d'établissements privés qui ne veulent pas forcément organiser des compétitions ? C'est aussi pour eux une façon de faire un peu de promotion quand même pour leur établissement.
Oui, malheureusement, on ne peut pas vraiment avoir d'action envers ces gens-là, puisque ils sont chez eux, c'est l'établissement privé, les tarifs pratiqués en open sont relativement beaucoup plus élevés que, voire le double ou des fois plus, que pour un licencié.
Oui, parce qu'on paye quand même un droit d'engagement quand on fait de la compétition. En plus de la licence et de la cotisation, on paye un droit
chaque compétition.
D'accord. Il y a un tarif réglementé par la fédération, qui est aujourd'hui de 2,90 € par partie, qu'on doit reverser aux propriétaires du bowling. Et c'est pas les mêmes tarifs en open. Donc certains propriétaires disent qu'ils perdent de l'argent quand ils font une compétition, mais bon, quand on ouvre un bowling à 8h du matin et qui fonctionne jusqu'à 22h, en open à 8h du matin il n'y a personne, donc ils gagnent pas d'argent.
Oui, c'est pour ça que les deux populations peuvent très bien cohabiter sans problème. Mais là, c'est pareil, c'est surtout un problème de relation avec le directeur de l'établissement, où le licencié peut très bien jouer de 9h à 20h, et puis laisser le bowling libre pour le ludique à partir de 20h et on y arrive très facilement.
Et ce qui est bien, c'est que ce Laurent Bouillet, ça se passe très bien, quoi.
Voilà.
Je crois que c'est un des établissements où il y a le plus de compétition.
Ah oui, c'est un patron qui a, c'est un sportif d'ailleurs, il pratique le bowling à haut niveau, donc ce qui fait qu'il a, il sait de quoi il cause, et puis c'est un passionné, donc ça aide.
Alors il y a un classement type individuel, type tennis, type golf, ça marche comment ce classement? Alors, c'est au fil des compétitions, en fonction des...
Il y a des classements équipes, les équipes sont classées en division nationale et régionale, de la N1 à la N3 et de la R1 à la R3, et en individuel, c'est un classement qui est établi à la moyenne sur vos compétitions sur toute l'année. Donc là, dans les joueurs individuels, il y a des trois catégories importantes. Il y a l'élite, au-dessus de 190 de moyenne, les excellences et les honneurs.
D'accord. Tiens, justement, on va rappeler les règles, parce que comment ça marche une compétition? On connaît peut-être pas le décompte des points, on sait peut-être pas comment ça marche.
Alors c'est assez compliqué. Entre les strikes, les
paires. Justement, parce que on entend des mots strike, mais ça veut dire quoi?
Donc il faut savoir qu'un score maximum c'est 12 strikes, c'est 300. Donc il y en a. Alors il y a quelques années, on faisait en France, il y avait un 300 par deux par an. Ouais. Aujourd'hui, il y en a avec les matériaux modernes, il y en a un par semaine.
Alors justement, quand on s'élance sur la piste, déjà, il y a combien de coups? Chacun lance combien de coups?
Par frame, vous jouez une boule si vous faites le strike, ou deux boules si vous ne faites pas strike à la première, votre premier lancer.
Donc le strike, c'est le jackpot, quoi. C'est un peu ça.
Voilà.
On a le droit de recommencer alors après.
Voilà, vous avez, une partie se joue sur 12, ce qu'on appelle, 12 frames.
Voilà, d'accord. Frames, voilà. D'accord, c'est ça qui est
important. Et à chaque fois, donc, il faut faire ou strike, ou ce qu'on appelle un spare. C'est-à-dire que la première boule, vous avez fait 7, 8, 9, mais il faut fermer.
D'accord. Ok, donc.
Et l'addition des points, c'est un petit peu complexe.
Ça aussi, ça simplifie pas quand même pour le grand public.
Non, mais maintenant, tout est automatisé. Donc, ça va bien. Avant, il fallait marquer. Donc, maintenant, c'est automatisé. Les jeunes ont tout sur les.
Justement, le matériel a considérablement évolué.
Ah oui, tout à fait.
Ça agit sur le déroulement des différentes compétitions.
Les boules, aujourd'hui, les boules entre ce que la boule qu'a un joueur d'Open qui prend atelier et la boule d'un joueur de compétition, il y a un monde d'écart. Les boules de compétition...
Elle pèse combien, la boule?
Ça pèse entre 6 livres. Alors, c'est un sport qui vient des États-Unis par l'Angleterre, donc on est en livres, en pouces. Donc, ça pèse entre 6 livres et 16 livres anglais, c'est-à-dire de 450 et quelques grammes. Ça fait une boule va de 2 kilos et quelque chose à 7 kilos, 3, 7 kilos 4.
Voilà. D'accord. Donc, le revêtement aussi des pistes, je pense, ça a considérablement évolué.
C'est passé du bois au synthétique, avec en plus pour les compétitions un huilage. Alors c'est en micron, c'est en unité d'huile, mais un huilage qui permet de protéger en plus les revêtements.
Donc ça permet des coups plus rapides, ça permet des meilleurs coups, ça permet de jouer avec la piste.
Voilà. Entre les nouveaux revêtements des pistes et les nouveaux matériaux qui sont utilisés pour les boules, les masses qui sont à l'intérieur des boules qui ont beaucoup évolué, on peut donner des tas de trajectoires aux boules. D'ailleurs, quand on regarde une compétition de très haut niveau, on s'aperçoit que les jeunes font traverser la piste avec leur boule. Elles partent à gauche, elles passent à droite.
Quel est le record de points? Il y a un record du monde à battre actuellement.
Les records, c'était sur trois parties. C'était 900, trois fois 308. Ça a été fait la première fois il y a quand même pas mal de temps, dans les années 60-70. Et puis, il y avait eu pas mal d'années sans que ça soit fait. Et là, il y en a eu 3-4 aux États-Unis en très peu de temps.
Alors, on vous l'avait dit, c'est un sport quand même qui demande une très, très, très grande exigence physique.
Tout à fait.
Il y a des entraînements naturellement en semaine, des créneaux. Voilà. C'est facile de trouver aussi pour les présidents d'établissement des créneaux comme ça en semaine pour uniquement laisser une ou deux pistes réservées à la compétition.
Ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, les bowling font quand même de gros efforts et on arrive à négocier une paire de pistes pour faire entraîner des joueurs, il n'y a pas de problème.
Une préparation physique aussi importante, on a besoin de faire d'autres sports en parallèle, un peu de footing, un peu de musculation justement, où on se muscle naturellement avec cette boule.
C'est un petit peu l'approche qui est différente, c'est un peu comme la pétanque. Il y a l'approche totalement sportive qu'ont les gens du nord de l'Europe, les Finlandais, les Danois, qui eux, ce sont des sportifs accomplis, font beaucoup d'autres disciplines sportives, font beaucoup de sport. Et l'approche que nous autres, on a peut-être, c'est une approche un peu plus, un peu moins professionnel. Quand on fait un peu moins de sport, on est, mais on s'aperçoit que pour tenir 3-4 jours de compétition, si on n'a pas la condition physique, c'est très difficile.
Voilà. Et puis un énorme mental. Je pense que le mental doit être prépondérant. Hein. Voilà. Il faut savoir faire le calme à l'intérieur de soi-même.
C'est un sport de précision parce que la pose d'une boule pour être extrêmement
comme pour précis, le tir quoi ou la pétanque quoi.
Ça se passe sur 3-4 centimètres. On pose la boule sur 3-4 centimètres et elle doit arriver avec un certain angle à 19 mètres plus loin. Donc ça nécessite de la concentration et une énorme rigueur dans le gestuel.
Il faut savoir donc évacuer tout ce qu'il y a autour.
Voilà.
Est-ce que le public est un public en enthousiaste ou au contraire on réclame le silence et le calme lors des compétitions?
Alors, quand vous faites une compétition internationale, le public est très bruyant
parce qu'il est là, il est dans la ligne, donc
vous allez dans toute l'Europe, le public est très bruyant. Chez nous c'est un peu plus calme, les joueurs ont besoin d'un peu plus de concentration, on a moins l'habitude de bruit de la foule que ne peuvent avoir les gens du nord de l'Europe ou des États-Unis.
Et on peut être perturbé, il peut y avoir un peu d'intox, on essaie justement volontairement public adverse de faire du bruit pour déstabiliser le bowler quoi.
Ouais, ça fait partie du jeu.
Donc il faut énormément de qualité physique et mentale. Hein,
tout à fait.
On l'a dit. Hein. Ouais. Et ça, aujourd'hui, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué, ces qualités physiques, mentales, on a beaucoup amélioré.
D'ailleurs, maintenant, il y a l'équipe de France, un préparateur physique, c'est un préparateur mental, parce qu'on s'aperçoit que c'est une des parts importantes de la réussite sportive.
On peut pas vivre de ce sport en France.
Non.
Non. Il faut partir à l'étranger. Il n'y a qu'en Amérique.
Oui, aux États-Unis.
Sauf si on est patron.
Oui, bien sûr. Oui, patron. Ouais.
Mais bon, un sportif, non. Il faut aller faire des compétitions à l'étranger, donc ça demande un gros investissement. Ou il faut aller aux États-Unis, où il y a quand même là quelques centaines de professionnels.
Et là, ce sont des clubs ou des partenaires privés qui payent le sportif?
Aux États-Unis, c'est beaucoup des sponsors.
Voilà, c'est ça. Voilà. Un peu comme Philippe Quintet pour la pétanque.
Voilà,
c'est pareil,
fait,
ce sont des sponsors qui payent d'accord. Et c'est un sport où on peut se blesser ou alors... contrairement
c'est un peu comme le tennis,
des tendinites,
beaucoup
parce que contrairement à ce qu'on croit on pense que c'est
ça demande aussi un échauffement très important avant la compétition parce que la boule étant très lourde.
Et c'est lancé à combien de kilomètres heure une boule en bowling?
Ça varie, alors ça va en gros, l'idéal c'est d'être à peu près dans les 24 km/h. Mais les professionnels, enfin aujourd'hui on voit des joueurs qui en lance la boule à plus de 35 km/h.
Et une carrière en compétition, ça peut durer 20-30 ans.
On a
malgré les blessures, malgré le fait qu'aujourd'hui
on avait un joueur qui avait plus de 90 ans.
90 ans. D'accord.
Je crois qu'il a arrêté, Monsieur Cadet. Crois qu'il a arrêté, mais il avait 90 ans.
D'accord. Et comment vous expliquez que les jeunes soient plus attirés par le loisir? Bon, c'est peut-être les contraintes de la compétition qui font que
les prix, le coût, le coût. Une boule de bowling aux États-Unis coûte 139 $, 100 euros. Le prix se multiplie par 3 quand il arrive en France.
Oui, parce que le matériel, il est à la charge du pratiquant.
Oui, tout à fait.
Ah oui, c'est-à-dire que les clubs peuvent pas prêter que le matériel pour s'entraîner, il faut avoir son propre matériel.
Tout à fait, chacun son matériel.
Ah oui, ça c'est un des avantages.
Plus vous progressez dans la compétition, et plus il vous faut de matériel. Aujourd'hui, un joueur de bowling qui veut vraiment bien jouer a au moins 3 boules de bowling. Qui sont adaptés à chaque condition de jeu.
Ça a beaucoup changé comme dans tous les sports. Donc
voilà.
On arrive à trouver du matériel facilement pour le bowling ou ce sont des magasins spécialisés?
Que des magasins spécialisés, c'est que du matériel qui vient des États-Unis. Et on n'a pas la chance comme à le golf, parce que c'est à peu près le même principe que le golf, où le golf, il y a beaucoup d'équipementiers, genre Decathlon, qui vend le matériel. Le bowling, c'est dans les pro shops spécialisés. Et là, ou alors, faut commander aux États-Unis, c'est ce qui se fait de plus en plus.
Oui, avec Internet maintenant. Monsieur Ross, c'est peut-être un des chevaux de bataille de votre action au sein du BIOS, de permettre à ce sport d'être peut-être un peu moins cher, quoi, au niveau de son matériel.
On a réussi à faire agréer les clubs, quelques clubs des Yvelines, pour pouvoir proposer des demandes de subventions. Et puis ça permet d'avoir un peu de sous pour pouvoir faire jouer des jeunes, parce que c'est surtout ça qui est difficile, c'est les jeunes, ils jouent un petit peu et puis ils s'aperçoivent que ça coûte très très cher, donc ils jouent 2-3 ans et puis ils arrêtent, quoi.
C'est ça, ouais,
parce que ça devient trop cher. Pour vous donner une idée, un joueur de National 1, c'est entre 6 et 10 boules. Alors une boule, ça vaut entre 200 et 300 euros.
Et c'est du matériel qui peut changer souvent, ou on peut faire plusieurs saisons avec plusieurs boules.
Ça fait une saison une boule, hein. Et encore, certaines boules, au bout de 200 parties, sont mortes.
Ah ouais, donc c'est un des problèmes de votre sport. Hein.
Oui, tout à fait.
Alors donc on a dit, on gagne très peu de choses, hein, très peu d'argent.
Voilà.
Il n'y a pas des partenaires qui pourraient donner un peu
d'argent.
On fait
vraiment ce sport pour le plaisir.
C'est ce qui explique que ce sport soit peu médiatisé. D'après vous ? D'abord, difficile.
Pas très bien à la télévision.
À la télé, ouais.
Ou alors, il faudrait changer les formules. Il y a des formules qui, aux États-Unis, ça passe très bien. Dans les pays anglo-saxons, le bowling passe à la télévision. On en a eu d'ailleurs il n'y a pas très très longtemps sur Eurosport 2, où ils ont fait voir les championnats d'Europe ou championnats du monde à Saint-Pétersbourg. C'est pas quelque chose. C'est vrai que pour ceux qui connaissent le bowling, on peut apprécier la gestuelle, on peut apprécier le score. Sinon, ça peut paraître les formules utilisées assez monotones. Donc, ce qui fait que ça accroche pas trop. C'est comme le tir à la harpe.
Ouais, si on n'a pas les renseignements.
Voilà.
Nécessaires.
Donc, quand on voit deux joueurs avoir le même lâcher.
Pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose, qui se mettrait devant sa télé, c'est difficilement compréhensible.
Ouais, ouais. Puis on a du mal à capter parce que on voit le geste, on voit la trajectoire, on voit que ça fait strike, mais c'est une répétition sans cesse du même geste. Il n'y a pas de notion de tactique.
Alors, en plus, vous l'avez dit, aux USA, c'est le sport hyper populaire.
Hein. Ah oui.
Mais dans les pays européens, en Allemagne peut-être, ou dans les pays anglo-saxons, ce sont des sports aussi très pratiqués.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et maintenant, avec l'émergence dans ce sport de pays comme l'Union soviétique, comme la Chine, qui construit alors à tout va des bowlings, je pense que on va peut-être arriver à faire en sorte que ce sport parte plus à la télévision, et comme d'autres sports, avec l'apport de la télévision, avoir un peu plus de licenciés. Je crois que ça aura un effet boule de neige.
Eh ben, il faudrait que ce soit un sport qui devienne olympique.
Il y a eu un essai à Séoul où ça a été un sport en démonstration olympique, mais il n'y a pas eu de suite.
D'accord, ok. Et ça, c'est sûr qu'il prendrait une dimension particulière s'il était sport olympique.
Tout à fait, comme beaucoup de sports, ou très médiatisés.
Une saison, ça dure de quand à quand, finalement ?
Du 1er septembre au 31 août, avec une coupure à peu près en août où il n'y a pratiquement pas de compétition.
Et les compétitions, elles ont lieu essentiellement le week-end, où on peut aussi avoir des compétitions le soir, en semaine.
Oui, ça. Beaucoup de compétitions d'ailleurs commencent en semaine. Les finales se font le week-end, mais les éliminatoires commencent en semaine.
Ah oui, ça permet peut-être aussi d'avoir un public un peu moins nombreux, un peu plus calme.
Voilà.
Les gros tournois où il y a 200-250 engagés, on ne peut pas tout faire le même week-end, donc les éliminatoires commencent la semaine, où les locaux y jouent, et le week-end, le samedi, c'est les gens des autres provinces qui viennent, ou voir les étrangers, parce que dans les grandes compétitions, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent.
Ah oui. Alors, c'est un sport où il y a peu de dopage. Il y a des problèmes de dopage, il y a des contrôles de dopage.
Oui, il y a des contrôles. Il y a des contrôles. Il n'y a pas de dopage. Il y a quelques fois, c'est arrivé une fois, petit contrôle avec un positif au cannabis. Donc c'est l'exclusion pendant un an. Voilà.
Un an, et encore vous êtes gentil. Et alors, le fair play, est-ce qu'il y a beaucoup de contestations? Bon, aujourd'hui, vous l'avez dit, ce sont des bowling électroniques, donc il y a une marge d'erreur très minime. Il peut y avoir quand même des contestations, c'était le cas dans le passé?
Oui, il y a toujours des contestations. Il peut y avoir de temps en temps ce qu'on appelle, vous savez qu'au bowling, il y a ce qu'on appelle la ligne de faute. Alors, quelquefois, on met le pied dessus, elle sonne, et donc la frame est à zéro, le lancer est à zéro, et il y a des contestations, il y a quand même des joueurs qui disent, moi j'ai pas mis le pied dessus, là j'en ai tout seul.
Ah, d'accord, ok. Eh bien, écoutez, ça nous permet en tout cas d'enchaîner avec ce qu'on a vécu cette semaine, hein, on le disait du côté de la maison donc, des sports à Paris, hein, pour les prix nationaux du fair play, rebaptisés depuis quelques années pour la circonstance les Iris du sport 2007. Alors, c'est une manifestation à laquelle on est particulièrement attaché, d'abord parce que tous les ans, ça nous permet d'approcher et d'interviewer tout le gratin du sport actuel et puis ancien. C'est bien des manifestations de ce type. Un jour, il faudrait que le bowling soit récompensé.
Oui, tout à fait. Bon, le problème du bowling, c'est qu'on n'en fait pas la demande. Mais si on faisait les demandes pour pouvoir rentrer dans ce cursus de récompense, je pense que les institutionnels du sport verraient d'un bon oeil que le bowling s'intègre à sa histoire. On est un peu trop discret quelquefois.
Très bien. Alors justement, donc cette semaine, pour le prix Attitude Fair Play, hein, le prix Micheline Ostermeyer, c'est Jean-Pierre Yves qui a été donc récompensé. Il n'a pas pu recevoir sa récompense, puisque vous savez qu'il est sculpteur. Maintenant, il était en Australie, mais cette récompense, lui, sera donc remise l'année prochaine, hein, pour la cérémonie de 2008. Alors ensuite, pour l'esprit sportif dans le prix Colette Besson, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus, c'est Virginie Dedieu, hein, la célèbre ballerine de la natation synchronisée, qui a été récompensée. Virginie Dedieu, elle a remporté la Coupe du Monde en 2002, elle a été championne du monde 2003, 2005 et 2007, elle a été aussi médaillée olympique à Sydney, et sa particularité, c'est qu'elle a stoppé la compétition. Elle a repris plus tard la compétition, elle est redevenue championne du monde et elle était ravie en tout cas d'avoir obtenu ce prix national du fair play. Virginie, donc un prix national du fair play qui vous fait autant de plaisir qu'un titre.
Bien sûr, d'autant plus que pour moi le sport justement c'est exactement ce que veut dire cette association, respect de l'autre, respect de soi-même et l'échange aussi avec les autres partenaires. Je me suis toujours battue contre moi-même mais j'ai considéré que j'ai avancé et que j'ai progressé grâce aux autres. Donc c'est vrai que recevoir ce prix c'est à cette image-là et puis c'est toujours très honorant d'être reconnu par toutes ces personnes-là.
D'autant plus que vous aviez arrêté, puis êtes revenu à la compétition.
Oui, alors ça c'était mon défi personnel, c'est vrai que je l'ai fait en plus en individuel, moi je considère quand même que mon sport est avant tout un sport d'équipe, c'est ce qu'on met vraiment à l'avantage sur les entraînements. Là c'était une envie très personnelle en effet pour une fois et c'était un gros risque et c'était me dépasser, aller vraiment au-delà de mes croyances aussi et savoir jusqu'où je pouvais aller.
Vous êtes sûr que vous n'allez pas repiquer après plus tard au jeu?
Non, là je crois que c'est difficile, d'autant plus que je suis architecte intérieur et designer, je vais m'installer. J'ai une association qui s'appelle les Synchrocamps, donc qui me permet de donner encore dans la synchro. J'organise des stages d'été et certainement aussi dans l'année. Donc voilà, je garde toujours le contact avec la synchro, mais en effet, il faut savoir aussi s'arrêter à un moment donné. J'ai déjà pris un premier très gros risque, donc je crois que ça suffit.
Oui, je crois savoir, vous étiez une des rares ballerines à ne pas avoir de protection au nez, hein, c'est ça?
Oui, en effet, j'en ai pas et je l'ai pas depuis toujours parce qu'avec, j'ai l'impression de m'étouffer et je pense que j'ai gardé des réflexes de nourrisson. Voilà, tout simplement.
Vous allez reprendre des activités un peu plus tard dans le sport, pourquoi pas la Fédération française un jour?
Je pense que de toute façon, j'y pars pas, donc avec mon association Synchrocamp, on est en contact de toute façon avec la Fédération. Je sais que les entraîneurs savent que je peux venir les aider sur la chorégraphie, notamment, puisque c'est vraiment ce qui m'intéresse. Donc après, on verra comment ça se passe, mais je pense que je partirai jamais du milieu du sport, oui, c'est sûr.
Merci Virginie.
Merci.
En tout cas, la grâce et l'élégance, hein, cette ballerine de la natation synchronisée, hein, Virginie Dedieu, effectivement, elle a décidé de mettre un terme à sa carrière, mais quand même effectuer comme ça un retour donc en compétition et sans porter le pince-nez, chapeau. Hein. Voilà. Alors ensuite, donc dans le prix Jomazo, c'est donc un escrimeur handisport, hein, qui a été récompensé, Marc André Crater. Alors ensuite, pour le prix Patrice Martin, on a eu un grand nom du basket, hein, qui a été récompensé pour l'ensemble de sa carrière sportive. Hein. Il a été effectivement champion de la Guadeloupe 1986 en équipe senior à 18 ans, champion espoir avec Cholet. Il a été champion de France en 93 et 94 et champion d'Europe, hein, puisqu'il faisait partie de l'équipe de Limoges. Et puis il a été capitaine de l'équipe de France qui a terminé deuxième aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Ce grand champion de basket qu'on a rencontré, c'est Jim Bilba qui donc a mis depuis un terme à sa carrière. Lui aussi était ravi d'obtenir ce prix national du fair play. Jim, donc un prix national du fair play qui récompense l'ensemble d'une carrière.
Oui, je suis, comment dire, très honoré par rapport à toute ma longue carrière. C'est une bonne reconnaissance par rapport à tout ce que j'ai voulu donner au sport. Et durant toute ma carrière, j'essaie de me donner une ligne de conduite et d'être exemplaire. C'est pas toujours évident, mais je pense que pour être exemplaire comme ça, il faut se respecter les autres et faut respecter des fois dans le jeu les adversaires, les arbitres et les sponsors. Et c'est ce que j'ai fait pendant toute ma carrière et je suis récompensé pour ça, c'est super.
Ce qui prouve que même dans le sport moderne, c'est encore possible.
Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a une évolution des choses, mais bon, après ma carrière, je suis récompensé par cela, ça me touche beaucoup. Et de faire partie de cette même famille, de ces mêmes gens qui ont fait pareil dans leur discipline, et c'est super.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes éducateur, non?
Non. Je suis une formation de général manager à Limoges de club sportif sur 2 ans et en attendant de trouver ma voie.
Et l'image de marque de votre sport, le basket, on a un peu le sentiment que votre sport sur le plan médiatique a raté le virage de 2000 après sa médaille d'argent aux Jeux.
Ben, c'est comme tout sport, il y a des périodes cycliques. Là, on s'est vraiment raté. Pendant 2 ans, on va devoir se battre pour une qualification de championnat d'Europe. Mais bon, ça fait partie des moments dans la vie, dans le cycle d'un groupe, qu'il y a des bas. Mais là, il faut savoir sortir les conséquences de ça et savoir rebondir par la suite. Même si on sait que par rapport à avant, cette équipe de France était largement au-dessus du lot.
Très bien, merci.
De rien.
Voilà pour l'immense Jim Bilbain. Hein. Il fait plus de 2 mètres. C'est vraiment un basketteur, effectivement. Alors, bah, ce prix lui a été remis par un fidèle, hein, celui qu'on ne présente plus, celui qui a la plus belle carrière de sportif donc au niveau des résultats. Hein, c'est Patrice Martin, donc qu'on ne présente plus, hein, ex-champion de ski nautique, et toujours fidèle donc à ses prix nationaux du fair play. Avec un fidèle à ses prix nationaux du fair play, Patrice Martin, toujours autant attaché au fair play dans le domaine du sport, Patrice.
Oui, parce que c'est l'essence même du sport. Ça reste un combat sur le terrain, l'envie de vouloir gagner, de surpasser l'autre, c'est sûr. Mais si on n'a pas derrière ça le respect de la personne, le respect des règles, en fait, pourquoi le sport a été fait, on oublie un petit peu qu'on fait du sport, quoi, et on retombe dans la guerre. Et jamais le sport doit retomber dans une guerre fratricide, dans une guerre de tranchées. Donc c'est ce qu'on combat tous les jours. Ce qu'on veut mettre c'est en avant, c'est la beauté du geste, envie d'être meilleur, mais si on ne peut pas se regarder dans la glace le lendemain matin, ça ne sert à rien.
Oui. En tout cas, cette manifestation, c'est aussi la possibilité de rencontrer tout le gratin du sport français actuel et ancien.
Oui, une grande partie, mais où je suis très heureux, c'est que on voit tous les ans cette manifestation qui s'étoffe, où il y a de plus en plus de gens qui viennent, et bien qu'il y ait beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les médias, notamment par rapport au sport, par rapport à la violence dans le sport, on va pas rappeler les faits qu'on connaît aujourd'hui, il y a un attachement fort de la part du mouvement sportif au fair play. Et ça, c'est motivant, parce que on se dit qu'on peut encore gagner cette guerre aujourd'hui des gens qui ne respectent pas le sport.
Oui. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Patrice? Vous travaillez pour la Fédé, non?
Alors, bénévolement, bien sûr, je suis engagé très fortement auprès de la Fédé, et puis également au travers d'une entreprise, parce qu'il faut bien travailler, donc une entreprise de travail temporaire pour laquelle je travaille sur les relations publiques, notamment dans le sport, et notamment justement sur ces valeurs de d'engagement de soi.
Je crois que ça va, non? Vous aviez un projet de radio, j'en ai où? Il y a très longtemps, hein?
On nous a coupé le son, je crois. Mais non, il y a eu un projet, c'est sûr. Un jour, peut-être. C'est quelque chose qu'on garde, que je garde, parce que j'ai toujours aimé communiquer, toujours aimé transmettre ma passion. Donc ça reviendra peut-être, c'est plus dans l'air du temps aujourd'hui, mais on a gardé un petit peu le dossier sous le coude.
À quand le ski nautique, sport olympique?
De toute façon, ce ne sera pas avant 2016. Ouais. Donc on a le temps d'y penser, mais on travaille toujours activement parce que c'est un travail de longue haleine. Donc on y croit, on construit les dossiers, on fait reconnaître notre discipline dans le monde entier. On a une vraie représentation sur tout le globe aujourd'hui. On a une pratique, même dans les pays asiatiques, qu'on n'avait pas il y a une dizaine d'années. Mais bon, maintenant, il faut attendre l'évolution, l'intérêt pour notre sport, qui est certain. On a loupé deux fois la marche. La prochaine fois qu'il y aura un nouveau sport inclus au jeu, puisqu'il n'y en aura pas avant 2016, j'espère qu'on sera encore dans un trio de tête.
D'accord, merci Patrick. Merci. Ah, super sympa, Patrick Martin, toujours vraiment autant passionné par son sport. Oui. Et, vous voyez, il est comme vous, hein, il se bat pour que le ski nautique devienne sport.
Voilà, ouais, on est donc plusieurs.
Très bien. Alors, et en plus, c'est la plus belle carrière, hein, je l'ai dit, du sport français.
Ah oui,
hein.
Magnifique.
Alors, justement, ensuite, donc, ont été récompensés dans le cadre de la carrière éducateur, donc le prix Daniel Costantini. Eh bien, Daniel Démier, hein, c'est pour l'athlétisme du côté de Niort. Pour le prix Joseph Mercier, c'est Max Monet Descombet, donc un responsable du foot Ufolep en Eure-et-Loire qui a donc été récompensé. Et pour le prix Gérard Quintin, eh bien c'est Jean Le Hir, organisateur donc du célèbre cyclocross de l'Arnarmilly, c'est en Bretagne, hein, qui a donc été récompensé. Ensuite, on a dans le prix dirigeant, hein, le prix Fernand Sastre, eh bien Francis Luis, le président de la Fédération française de natation. Et pour le prix Émile Boris, c'est Jacques Trouvé, le président d'honneur de la Fédération française de tir, hein, qui ont donc obtenu ces prix nationaux du Fair Play 2007. Pour le prix pour la promotion de l'esprit sportif, donc le prix Nelson Payou, c'est la ville de Créteil, hein, la ville désignée la plus sportive qui a donc été honorée. Et puis pour les comportements supporters, on notera que pour les diplômes d'honneur, c'est le club des supporters d'Allées Nantes, Canaries et Thierry Gomez, le président du club de foot de Troyes, qui ont été récompensés. Et puis ensuite, pour la défense de l'esprit sportif, pour le prix Jacques Marchand, eh bien c'est la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, hein, qui a été donc honorée. On avait aussi reçu le président du comité départemental au mois d'avril dans notre émission. Esprit sportif et francophonie dans le cadre du diplôme d'honneur, c'est Ouzière Jacques, donc professeur de judo, éducateur de rue à New York, qui a été honoré. Et puis on citera que notamment au niveau de nos confrères ont été récompensés donc en diplôme d'honneur dans le prix de la citation spéciale du jury, eh bien Marc Maury et puis Michel Drey, hein, qu'on aura tout à l'heure l'occasion d'écouter dans l'émission Tribune Foot. Et puis on écoutera aussi dans Tribune Foot, eh bien pour le prix spécial du jury, prix Éric Tabarly, eh bien quelqu'un qu'on ne présente plus, c'est Raymond Coppa, hein, qui a été naturellement très largement plébiscité et récompensé à l'occasion de ces prix nationaux du fair play. Prix nationaux du fair play où on a pu aussi rencontrer Joe Mazo, hein, puisque c'est un fidèle aussi, il avait aussi été récompensé en tout cas en 96. Et depuis, comme Patrice Martin, eh bien Joe Mazo, il reste fidèle à ces prix du fair play. Et vous allez voir, il a quand même bien récupéré de la déception engendrée par le 15 de France il y a encore quelques semaines à l'occasion du mondial de rugby. Jo, toujours aussi fidèle à cette remise des prix nationaux du fair play.
Oui, parce que c'est un moment qui me tient à cœur, parce que voilà, d'abord, je trouve que l'idée est formidable de vouloir défendre l'esprit sportif, d'être fair play, c'est tout ce que j'ai voulu être quand j'étais joueur, c'est tout ce que je fais passer comme message maintenant en tant que manager. Et il est logique que je puisse, chaque fois que je peux, me libérer pour venir soutenir et aider cet état d'esprit à continuer à vivre et à se perpétrer.
Parce que le fair play dans le rugby, vous savez ce que c'est, hein ?
Oui, c'est une des grandes valeurs du rugby. C'est respecter l'autre, c'est respecter les décisions de l'arbitre, c'est partager, c'est être tolérant. C'est tout ça les valeurs du rugby qui font que même si on n'est pas un sport mondialement reconnu comme d'autres sports, le football par exemple, nos cousins du football, on a ces valeurs qui sont inhérentes à notre jeu, et il faut qu'on soit là pour défendre bec et ongles ces qualités, ces valeurs qui nous tiennent à cœur.
Alors des valeurs qu'effectivement la France entière a découvertes, hein, lors du mondial. Il y a eu un effet donc pour le rugby, et ça continue, ça perdure?
Oui, bien sûr, puisqu'on a eu plus de 30% de gosses qui sont venus s'inscrire dans nos écoles de rugby. Je crois que même si c'est une grande déception de nous voir perdre en demi-finale, et un grand bonheur de nous voir battre les Blacks en quart de finale, il y a quand même l'événement qui a été extraordinaire. L'organisation a été sans faille, les 400 000 visiteurs qui sont venus voir la Coupe du Monde en France sont repartis enchantés, ravis, avec des grands yeux écarquillés, tellement ils étaient bien reçus. reçu et bien accueilli chez nous. Je crois que tout est positif. Le seul petit regret qu'on peut avoir, c'est de ne pas avoir pu garder la Coupe du Monde en France. Mais ça fait rien. On va se remotiver et repartir pour une belle et grande bagarre à nouveau dans 4 ans. Et j'espère qu'on sera au niveau, au moins dans les 4 meilleurs, ce qui n'est pas déshonorant, mais essayer de faire mieux encore la prochaine fois.
Oui, avec un nouvel entraîneur et des nouveaux joueurs, fatalement, hein, une nouvelle génération qui va arriver.
Oui, bien sûr, avec Marc Lièvremont, Émile Mtamak, Didier Retière, des jeunes entraîneurs qui ont fait leur preuve avec l'équipe de France des moins de 21 ans, puis qu'ils l'ont amené au titre de champion du monde des moins de 21 ans, avec des nouveaux joueurs. Il est avec des jeunes joueurs qui vont venir frapper à la porte et qui vont, comme d'habitude et comme la logique le veut, pousser petit à petit les grands anciens vers une retraite méritée et confortable.
Merci Jean, en tout cas.
Avec plaisir.
Merci. Voilà. Voilà, en tout cas, c'est bien qu'il ait bien récupéré Jean Mazo. Hein,
oui.
Hein. C'est vrai que vous avez vécu ce mondial. Ça vous intéresse, les autres sports?
Ah oui, bien sûr.
Que vous lisez?
Ah non. Ouais. Je pratique le golf, je pratique un petit peu le football.
Ah oui, d'accord.
Oui.
Donc vous n'oubliez pas, hein, quand vous partez, vous restez sur Tribune Sport, vous aurez Michel Drey et Raymond Coppa tout à l'heure qui vont passer dans l'émission suivante, Tribune Foot. Bowling, rugby, même combat, hein, je crois, monsieur.
Oui,
monsieur,
j'ai eu l'occasion de rencontrer l'ancien entraîneur de rugby, qui est maintenant notre ministre des Sports, à l'occasion d'une démonstration, et il était surpris par le poids des boules et puis la puissance qu'il fallait développer pour pouvoir jouer, et puis surtout aussi longtemps, parce que bon, quand on fait une petite partie comme ça entre amis, ça dure une petite heure, mais nous on joue, on arrive à jouer les championnats de France par exemple, c'est 11 heures de jeu dans le week-end. Donc il était un peu étonné vraiment des facultés physiques qu'il fallait pour pouvoir jouer aussi longtemps.
Ah ben justement, hein, on en parlait, cette dépense physique qui est loin du bowling loisir, incarnée justement par les propos de Bernard Laporte. Hein. Alors justement, il y a d'autres compétitions importantes qui vont se dérouler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Hein.
Oui, là on a une super compétition organisée, c'est le plus grand tournoi jeune européen qui est organisé par le Club des Mureaux. Malheureusement, c'est pas dans notre département parce qu'on n'a pas suffisamment de structure pour l'accueillir.
C'est 78 les Mureaux, mais c'est organisé en dehors de...
Ouais. On l'organise à Saint-Maximin dans l'Oise, puisque c'est près de Roissy, comme il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. Il y a des Finlandais, des Polonais, je crois que cette année, on doit avoir des Chinois qui doivent venir.
Oula.
Donc, une compétition vraiment intéressante. Des Grecs aussi qui viennent.
Ah bien.
Et, qui sont des habitués maintenant. Et il y a plus de 100, 120 ou 100, 130 joueurs jeunes qui viennent. Donc on les accueille, on les héberge. Vraiment une belle compétition.
Tiens, justement, est-ce que vous comptez développer votre sport au niveau des écoles? Parce qu'il y a beaucoup de sports qui travaillent avec les écoles, les lycées, les collèges pour justement pouvoir fidéliser éventuellement de futurs pratiquants, quoi.
Bah, c'est un peu tributaire des centres et des clubs. Parce qu'il y a des clubs qui ont créé leurs propres écoles, d'autres c'est les centres qui ont créé les écoles, et on a un petit peu de mal à gérer ça pour l'instant. C'est pas évident, parce qu'il faut trouver des sponsors, des subventions, donc ça commence à venir, mais c'est pas encore... surtout en Provence, c'est bizarre parce que ça marche bien en Provence, mais pas en Île-de-France.
Ah ouais. Et puis ça dépend encore des directeurs d'établissement aussi. Hein.
Voilà. Tout à fait. Puis bon, je crois qu'il y a quand même des académies qui ont quand même mis le bowling dans la pratique sportive. Hein. Il y en a de plus en plus. Ça se faisait en Île-de-France avant dans un bowling qui était un bowling phare. Ça s'appelait le bowling de Paris, qui était au jardin d'acclimatation en Bois de Boulogne, où là, il y avait l'académie qui avait permis aux jeunes de pratiquer le sport, et même dans le cadre de leurs études. Hein. Ça faisait partie des pratiques sportives. Maintenant, c'est en Île-de-France, c'est vrai que comme disait M. Ross, c'est un petit peu plus délicat, mais ça se passe très très bien en province.
Il y a une fédération française de bowling?
Ah oui.
Complètement. Alors, est-ce que la plupart des clubs sont affiliés à la fédération française, ou est-ce que finalement l'avenir de votre sport, le salut de votre sport, c'est pas un peu comme le golf, ça passe pas par les corporatifs? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui justement facilitent la pratique du golf, ce qui rend ce sport pas très onéreux au niveau des entreprises. Est-ce que c'est pas aussi pour vous un exemple à suivre?
Mais voilà, nous avons aussi dans le bowling la partie corporative. Tout ça, c'est géré par la Fédération française de bowling et sport de quilles.
D'accord.
Et c'est effectivement un des moteurs du sport bowling, le sport d'entreprise est un des moteurs, puisque ça permet effectivement aux gens de pratiquer à des tarif un peu réduit, puisque l'entreprise, enfin le comité d'entreprise prend une partie à sa charge.
Ah, c'est ça, et puis aussi des compétitions inter-entreprises. Hein,
voilà, il y en a beaucoup, ça va même jusqu'au championnat d'Europe, hein. On a un championnat d'Europe de sport d'entreprise.
D'accord, très bien. Allez, on a été très bavards entre donc, les fair play et puis le bowling, on marque une deuxième pause musicale, et puis vous voyez, ça passe très vite, après ça sera l'heure de se quitter. Allez, on y va, la pause musicale. Voilà, puis cette fois-ci, il y a un peu de retard à l'allumage. Alors, on va donc quand même refaire la promotion de votre sport à travers ces différentes disciplines, enfin, à travers ces différentes compétitions qui vont pouvoir se dérouler dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Il y a donc des rendez-vous. Les curieux peuvent venir quand on voit une compétition, c'est gratuit ou alors...
Ah oui, bien sûr, c'est gratuit. Hein. Les spectateurs peuvent rentrer dans les établissements et peuvent regarder les compétitions gratuitement. Au contraire, c'est même un plus, puisque ça peut donner...
La vocation.
À ces jeunes joueurs ou à leur famille. Dans les Yvelines, les prochaines échéances, là, il y a toujours à Rambouillet des compétitions, et c'est bon, aujourd'hui exclusivement à Rambouillet. Il y en a une au mois de janvier qui est organisée par les âmes des Mureaux. Toujours là, les Mureaux, gros. Ouais. Donc, c'est une compétition qui va durer sur 3-4 jours. Avec la finale le week-end. Et puis, il y a la phase, au mois de février, la phase départementale de la Coupe de France des clubs qui se déroulera également à Rambouillet.
Ah ben, décidément, c'est vraiment le club phare hein, de notre région.
Voilà, Rambouillet, c'est l'établissement phare. Et le club phare.
Ah ben, c'est très bien pour nous. Hein. Ah, et puis, on va encore donc saluer le présent Jean-Pierre Derrider, hein, qui habite plus trop dans la région, mais qui s'occupe toujours activement de ce sport. Hein.
Tout à fait.
Voilà. Et puis, on va rappeler, donc, il n'y a pas de site internet, mais ceux qui veulent donc s'inscrire, ils viennent carrément dans les établissements privés, et puis après, ils se mettent
en relation avec les clubs.
Très bien. Merci, messieurs, en tout cas. On va souhaiter quand même que votre sport soit un peu plus médiatisé. J'espère qu'en tout cas, ça a permis de mieux le connaître.
Merci bien. Nous, on vous remercie pour cette tribune. Hein, c'est toujours quelque chose de valorisant pour nous de passer à la radio. Puis, ça peut nous amener un peu de licenciés. Voilà.
Et puis, s'il y a un petit mot à dire aux jeunes qui nous écoutent ce matin, qu'est-ce que vous leur dites?
Ah, moi, c'est de venir, d'être licencié de la fédération, c'est un plus et ils seront toujours bien accueillis.
Très bien, merci donc messieurs, bon retour et puis à très bientôt pour parler de bowling et de jeux de quilles. Hein.
Également les jeux de quilles.
C'est aussi l'appellation. Hein.
Voilà, je vous remercie.
Très bien, merci, voilà. Et ben, on enchaîne dans quelques secondes avec Tribune Foot, oui, c'est ça, Hervé, on parle de sport peu médiatisé comme donc le bowling et puis de sport ultra médiatisé comme le foot. Allez, on se retrouve dans quelques secondes.